Ça coûtait 1 milliard ce qu'il fait dans les collèges à Paris. Mais
il a raison.
Vous marchez sur la tête. Non, mais tout le monde va bien, tout le monde est heureux. Hein, il est beau, hein, il parle bien.
Il nous dit que c'est formidable de se baigner dans la Seine.
Bah, alors, Manu, du coup, qui pourrait reprendre la France en main ou resoulever la France? Dites-moi alors.
Moi, à mon avis. Hein, non. Non, mais nous, on a pas besoin, on est magnifique, on brille, dans la Méditerranée, on a besoin de rien. Les gars, sans déconner, l'homme providentiel, il faut arrêter avec les conneries, ça commence à la balle.
Ça vous avez raison, bravo, je vous applaudis. En fait, voilà. Le problème, c'est qu'on croit tous les 5 ans qu'un homme providentiel va tout régler.
Le Superman n'existe pas, je vais en décevoir beaucoup, il n'existe pas. Le Père Noël, non. Pardon, le Père Noël existe, pardon, excusez-moi.
Voilà. Mais Napoléon a existé, hein.
Pascal Paoli, il faut rappeler que le concept qu'il avait inventé, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Oui. La première
constitution au monde.
C'est vrai.
Exactement.
Vous avez raison.
Avec le droit de vote aux femmes. Vous voyez, on n'est pas des sauvages.
Exactement. Exactement. Mais si vous avez bien, moi, je suis ravie que Manu ait pu parler et rappeler que la Corse, à la fin du 18e, était vraiment l'esprit des Lumières, c'était en Corse. Et aujourd'hui encore,
il y avait encore le droit de Corse
se bat pour la République.
Toi, tu veux te barrer en vacances en Corse, toi, ça va aller toujours.
Je veux comprendre. Moi aussi, je m'installerais bien en Corse.
Sur le continent, en Corse.
Pas de chez Salut.
Si je pouvais, j'irais bien.
Merci, Manu. Pas de
chez Salut, Manu.
Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.
Il était très bon, Manu. Je crois qu'il l'a plié définitivement le match.
Sommes-nous trop durs avec les politiques? On va voir.
Est-ce que vous allez prendre une bâche? Je ne sais pas pourquoi.
Non, là, Bruno.
Oui, là, tu paries combien? Je suis très bon dans les sondages.
Attendez, n'envoyez pas le résultat.
Attends, il y a peut-être de l'argent à se faire. Bruno, tu paries combien que t'as gagné?
La rôtisserie de la Tour d'Argent, tiens.
Ah bon, n'importe quoi. Lui.
Alors attends, vraiment?
Non, mais c'est une brasserie.
Ah. Oui, enfin,
c'est une très bonne brasserie.
Oui, oui.
C'est sûr.
Allez, vas-y.
Ouais, non, je vous invite pas tous.
Vas-y.
T'invites
Barbara. Moi, je mange qu'une salade.
Barbara et Olivier. T'invite.
Barbara, elle ne bouffe pas grand-chose. Il n'y a que Olivier qui bouffe.
Oui, c'est vrai.
Vaut mieux l'avoir en photo. Alors, allez, résultat final. Feu. 89%. Vous avez perdu 11%, vous avez récolté
ça. On va pas le prendre comme.
En revanche.
On va pas t'engager à l'IFOP.
Jamais te mettre avec.
Je pensais que j'étais un véritable stratège, je pourrais faire un embaucher.
On t'envoie nos dates pour la rôtisserie.
Oui, on te dira pour la rôtisserie.
Jamais te mettre avec Étienne, je perds depuis.
Dans un instant, on va encore avoir un sujet de discussion animé. Et avec vous au 32-16 d'ailleurs. Parce qu'on va reparler de Mohamed Amra, l'ennemi public numéro 1.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Toute la semaine, dès 15h sur RMC, retrouvez l'équipe la plus déjantée de la radio. Avec Éric Dimeco, l'ancien fou.
Oui, voilà. Alors, il y a Dimeco, il y a Charvet, il y a Stephen, il y a Bartoli, il y a Egouet, il y a Pierrot. Venez vous marrer, parler de sport avec nous dans le Super Moscato Show. Voilà, ça c'est efficace et présent de la graine.
Mais Vincent,
il n'y a pas de mais.
Vincent.
Alors à tout à l'heure.
Vincent, t'as oublié l'heure.
Je vais pas faire tout ton travail non plus, feignasse.
Le Super Moscato Show, du lundi au vendredi, 15h-18h, sur RMC. Si un jour vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
RMC Escrime. Du 17 au 19 mai, c'est le Challenge Monal. La Coupe du Monde d'épée hommes accueille les stars mondiales de l'escrime à Saint-Maur-des-Fossés. Encouragez le champion olympique Romain Canon et ses partenaires de l'équipe de France pour la dernière épreuve sélective avant les Jeux Olympiques. Info et résa sur ffescrime.fr. Le Challenge Monal. Du 17 au 19 mai avec RMC.
RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Il a fait tourner la roue RMC.
Bonjour.
Bah déjà, vous êtes de bonne humeur, vous êtes content d'être avec nous. Allez, go Anaïs, fais tourner.
Yes.
Bien joué.
Maintenant, c'est à votre tour.
Jusqu'à 20 000 euros par jour à gagner sur RMC. Pour jouer, dès que vous entendez.
Envoyez roue par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Roue au 732-16. RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Story, Les Grandes Gueules avec aujourd'hui Étienne Hibic, Bruno Pomard, Barbara Lefebvre. Pardon si de temps en temps, effectivement, les GG s'emballent. C'est la passion qui les anime, c'est la conviction.
Moi, je m'excuse, je présente mes excuses.
C'est vrai que pour ceux qui nous écoutent à la radio, ça peut parfois être inaudible.
Je les accepte.
On va tout faire.
Monsieur
tout
Pomard faire. Et Monsieur Hibic ne s'excusent jamais, mais moi, je m'excuse.
Je les accepte, tes excuses.
Non, mais Bruno, c'est bien, il fait des paris qu'il perd, ça, c'est agréable.
T'es là, on a pris le bas, je pensais pas à ce Bruno. Je suis très déçu.
Tu t'en es pas remis?
Non, je pense que je prends des antidépresseurs en sortant et vraiment, ça m'a foutu un coup sur la tête.
Non, attends, Marty.
Reparlons maintenant du parcours de l'ennemi public numéro 1, Mohamed Amra.
RMC, les grandes gueules.
Mohamed Amra, on va reparler de son parcours depuis son adolescence jusqu'à aujourd'hui. Adolescent déscolarisé, problème à l'école et puis ensuite la plongée dans la délinquance. Mais écoutez, il y a 48 heures, ce que disait son propre avocat qui n'en revenait pas de découvrir son client qui était au cœur d'une tuerie à un péage avec deux morts, deux agents de la pénitentiaire.
J'aimerais imaginer qu'il n'est pas impliqué, qu'il n'est pas le commanditaire, qu'il n'est pas le co-organisateur. Quand vous assistez quelqu'un, vous n'avez pas envie d'imaginer qu'il soit impliqué dans une pareille violence aveugle, dramatique, folle, inexcusable. Et que ça correspond pas au profil que j'avais perçu de lui. Si on tient pour acquis qu'il est effectivement impliqué et en partie organisateur de ce drame qui vient de se produire, on va imaginer qu'il avait donc un statut plus important que celui qu'on supposait. Et puis il y a aussi une autre possibilité, c'est que on soit venu le chercher non pas pour le libérer, mais pour l'avoir à disposition et peut-être pour lui faire payer ce qu'on suppose qu'il aurait lui-même commis.
Vous avez entendu, en fait, toute une question de profil. Quel était le profil de Mohamed Amra, aujourd'hui qu'on présente comme finalement quelqu'un qui n'est pas un gros bonnet, jusqu'à ses premières bêtises quand il avait 12 ans, 13 ans, 15 ans.
Il n'a que 30 ans, mais il a un long parcours judiciaire, puisque la première condamnation, il y en a 13 hein, sur son cas judiciaire. La première, elle est tombée en 2009. Pour vol à Réunion, il avait alors 15 ans. Il a quitté l'école en troisième et ensuite, il va multiplier les passages devant les tribunaux correctionnels pour une dizaine de faits mineurs. Alors le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est de la prison avec sursis. Oui. Donc ça revient au débat sur est-ce qu'il ne faut pas mettre un peu de ferme assez rapidement pour faire comprendre les choses. Parce que certes, il est condamné pour conduite sans permis à deux reprises, pour recel de vol. Il est condamné également pour tentative de vol à effraction, pour outrage et refus d'obtempérer. Et à chaque fois, c'est des petites peines de sursis. Donc il continue et puis après ben forcément ça va de pire en pire et donc il y a des vols par ruse, ensuite il fait de la prison et puis là il devait être poursuivi pour des affaires de meurtre, hein, d'homicide, et c'est d'ailleurs peut-être lié à ces affaires qu'il a été libéré ou qu'il s'est libéré lui-même. Les deux hypothèses de l'avocat tiennent, mais on se pose la question, est-ce que si ce Mohamed Amra dès le début avait été condamné peut-être plus fermement, avait été repris en main vraiment par l'État, est-ce qu'on aurait évité le pire?
Déjà, s'il avait été pris en main tout court par sa mère et ses parents,
aussi,
ça aurait peut-être aidé,
oui,
non
oui, déjà,
parce que, excusez-moi, mais quand j'ai entendu, parce que oui, ça m'a scandalisé, d'entendre la mère sur une radio venir nous expliquer « Ah ben, je comprends pas. Ah ben, c'est tout juste, elle nous a pas dit que c'était un brave garçon. Hein. Quand elle le voit au parloir, il lui parle pas de tout ça. Ben non, bien sûr, hein, ça c'est sûr. Non mais, on vit sur quelle planète ? Son gosse déscolarisé, qui commet des petits larcins quand il a 12, 13, 14, 15 ans. Là, j'imagine bien qu'on va nous expliquer qu'elle pouvait pas le remettre sur le droit chemin. Bah, bien sûr. Donc, l'État aurait dû s'en occuper. Non, non. Je pense que cette femme a une part de responsabilité, je ne sais pas laquelle. Mais quand, aujourd'hui, elle ose répondre à un journaliste, elle se dit même pas que, au contraire, elle devrait plutôt se taire et la jouer profil bas et dire non, je réponds pas aux journalistes. Non, elle vient au micro et puis elle nous explique que c'est, en gros, non seulement c'est pas de sa faute, mais en plus, il est quand même pas méchant, son fils. Il lui en avait jamais parlé. Ça m'a d'ailleurs rappelé des mères, d'autres genres de mères avec d'autres genres de profils. Mais bon, on va pas passer sur ce genre de mère-là. Je suis effarée que des gens, quand je l'ai entendu, je me suis dit, ah ben, je comprends aussi un petit peu le parcours du gamin. Parce que la mère, si elle n'a pas de filtre à 30 ans, alors que son fils est potentiellement impliqué dans quelque chose d'aussi grave, elle a suffisamment pas de filtre pour venir parler à la radio, je me dis que vraiment, j'imagine bien les profs et les chefs d'établissement, quand ils essayaient d'alerter cette famille ou de leur dire, ça va pas votre fils, ça dérape, on en a plein, nous, des gamins, où on sent que c'est la pente qui glisse, et ben, certains parents reprennent le gosse. Et je peux vous dire que ça, ils les reprennent, ils les serrent, c'est bien vissé. Et puis vous en avez d'autres, mais je ne sais pas quoi faire, mais je ne sais pas quoi faire. Et ça se bat les flancs. Ah ben on ne peut pas lui prendre le portable, ah ben on ne peut pas l'enfermer à la maison. Ils ne peuvent rien faire. c'est l'impuissance permanente. Ben voilà, l'impuissance parentale, ça donne l'impunité pénale. Ben bien sûr.
C'est le profil type de jeune. Moi, j'en ai connu plein, j'en connais plein encore, parce que je travaille avec le ministère de la Justice sur ce sujet, avec la PJJ, de façon très précise, sur les enfants très difficiles comme ça. On se rend compte que c'est le début de parcours est quasi classique de plein de jeunes qu'on connaît. Stup, rodéo urbain, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Olivier. Des trucs, je dirais, presque... pas futile, mais je veux dire, c'était pas grand chose. Ensuite, on voit la bascule avec tentative d'assassinat, complicité de meurtre, etc. Là, il y a une vraie bascule. C'est vrai que on s'interroge sur comment ce jeune a pu basculer et
c'est
soit.
On n'apporte pas la bonne réponse puisque les condamnations, etc., ne changent rien au parcours, en fait.
Non, et puis le travail éducatif. Pourtant, la PJJ, moi, je travaille depuis des années avec la PJJ, les éducateurs souffrent parce que c'est un métier très difficile et je peux vous assurer qu'on a 800 ou 900 mineurs actuellement incarcérés dans les établissements pour mineurs en particulier et on se rend compte que la difficulté avec ces jeunes-là, et moi, je les ai en séjour souvent très compliqué, on a des profils de jeunes très très durs et qui sont capables de basculer.
Avec
et ce qu'on a vu là,
une cellule familiale qui est déstructurée.
Bah, ouais. C'est systématique.
Mais
c'est toujours
Étienne te le dira. Tu as des élèves. On a des élèves. Ils ont soi-disant un éducateur. Excuse-moi, l'éducateur, on a dû le voir deux jours dans l'année
parce qu'il
est débordé. Il en a tellement d'autres à suivre. Les gamins à qui on met un éducateur, l'éducateur ne peut même pas lui-même faire son travail. Il n'en a pas les moyens. Et nous, l'institution scolaire, par exemple, on est démunis aussi parce que on n'arrive même pas à avoir l'éducateur et à avoir un suivi minimal.
Moi, je trouve que dans cette histoire, rien ne va. Franchement, rien ne va. Rien ne préjuge de la dangerosité de ce type. Rien ne préjuge. Alors déjà, il faut savoir qu'une attaque comme celle-là, c'est la dernière fois que ça a eu lieu, c'est en 1992.
Ouais, tout à fait.
Donc, c'est pas quelque chose qui est courant et que peut prévoir l'administration pénitentiaire. Heureusement, c'est arrivé souvent dans les films, mais dans la réalité, c'est d'une extrême rareté. Et alors, ce qui est incroyable, c'est d'une extrême rareté. Pourtant, Dieu sait s'il y a des barons de la CAM qui se sont déplacés dans des véhicules de ce type-là. Et il n'y a pas eu d'agression pour le récupérer. Et ce mec-là, qui n'est rien, qui ne se balade pas. Non, mais je continue. On nous raconte qu'il essayait de scier les barreaux de sa cellule. Mais c'est les barreaux. On se croirait dans un film avec Belmondo. Ouais. Il n'y a pas de barreaux de cellule à scier aujourd'hui.
Non, il arrive du milieu marseillais.
On n'est pas dans les prisons de 1900.
On sent quand même qu'il y a une bascule.
Oui, je t'entends. C'est un mec qui est prêt à tout, je veux bien. C'est un mec qui est passé, qui a basculé, qui a quitté la petite délinquance pour devenir un véritable délinquant, peut-être utilisé par d'autres mecs graves pour des tâches indignes.
Tu sais aussi, il y a une autre hypothèse qui circule. Ça serait peut-être une mule aussi. Peut-être qu'il sait où est planqué beaucoup d'argent et qu'on a besoin de récupérer pour qu'ils nous disent où
je veux bien.
500 000, 600 000 ou 700 000 euros.
Alors du coup, c'est pas lui qui a commandité le truc.
Non, mais donc, ça veut dire qu'il a une valeur.
Oui, mais je comprends. Mais tu vois, c'est quand même... Je disais la dernière fois, c'est en 1992. C'est de me dire que ça n'arrive pas. Et là, pour récupérer ce mec, alors qu'il y a des taulards très, 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 très dangereux avec des groupes qui sont très puissants, on le fait pas. Et là,
on n'a pas la raison.
On le fait.
Ceux qui sont très dangereux, ils sont des PS
3 et 4.
Là, t'as les Iris,
ils sont pas
t'as
dans
la police,
camionnette.
Le copette à Paris qui appartient à la DOPC, des escortes de policiers hyper chargées. Voilà.
Le baron de la drogue, il serait pas dans une camionnette.
Mais en plus, quand même, on en parlait tout à l'heure avec quand même un professionnel. L'organisation de ce commando, les armes qu'ils ont, l'organisation du commando, etc. C'est pas un truc de petit, c'est non. Presque, on a embauché des mecs qui peuvent venir de l'étranger, qui sont des commandos organisés, qui sont payés pour faire ce genre de truc.
Ils avaient bien préparé.
On avait vu ce type de commando quand il fallait sur les attaques de fourgons blindés.
Oui, voilà, c'est ça fait penser à ça.
Mais alors, je ne suis pas spécialiste.
C'est un paradoxe incroyable.
Non, mais je suis pas spécialiste de la délinquance des narcos et compagnie, mais je pense que vous sous-estimez l'évolution de la violence chez certains jeunes aujourd'hui. Je pense qu'on n'a même plus besoin, je ne vais pas citer de nationalité, mais on n'a même plus besoin de les faire venir de certains pays d'Europe de l'Est pour qu'ils viennent faire ce genre de boulot. Je crois que nous les avons déjà sur le territoire national.
Sur ce sujet-là, je voudrais continuer sur un point, parce que Je pense que j'espère que je me trompe et j'espère que ce qui s'est passé là n'est pas quelque chose de signifiant. Mais les analyses historiques montrent que quand même quand on passe comme ça à des mafias organisées et qu'aujourd'hui on se dit que peut-être le trafic de drogue est devenu non plus une affaire de petits trafiquants mais une affaire de mafias organisées dont l'argent est blanchi et que effectivement on la répression etc. entraîne finalement quelque chose qui ressemble à ce qui s'est passé aux États-Unis pendant les 14 ans de prohibition, c'est-à-dire le développement de mafias, la corruption de fonctionnaires parce qu'il y a des
l'appauvrissement des fonctionnaires
corrompus. Il y a l'augmentation des mafias, des produits qui sont pourris comme l'alcool était pourri et la surmultiplication des consommateurs. On est en train d'assister à cela, c'est-à-dire on est en train de reproduire ce qui s'est passé aux États-Unis.
Que, mais à Marseille, là, on sait où tu veux en venir plutôt. Parce que tu veux en venir à son histoire de légalisation.
J'en viens juste au fait que on peut quand même se poser la question aujourd'hui si on n'est pas en train de mettre en place des systèmes de mafias dont on va mettre 25 ans. On a connu la French Connection, la France était la plaque tournante de la drogue dans les années 70.
Et à Marseille, ils ont viré, je me demande si
on n'est pas en train de mettre en place quelque chose qui ressemble à ce qu'on a connu dans la French Connection.
On a connu ça avec Zamba
par notre incompétence politique.
Ils se sont fait détrôner par des petits voyous
les Italiens et les Juifs et les Corses.
À Marseille, c'est pour dire que quand même la police travaille, l'OFAS travaille bien et les services, il y a deux grosses, il y a Mafia Z et je ne sais plus quelle grosse mafia sur Marseille qui se partent, pardon,
Yoda.
Merci
Yoda.
Bravo.
Ça, c'est
non, c'est une question, c'est pour moi. Ces deux réseaux-là non. S'affrontent et attention, et c'est sérieux.
C'est entre après, barbecue et en passant par personne n'a la réponse hein, pour l'instant. Non, parce que même dans les pays où on légalise, on voit que la criminalité ne baisse pas.
Non, mais je dis juste, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui bouge là et espérons que ce ne soit pas une organisation.
Le point qui va dans ton sens aussi, c'est que quand un État s'affaiblit considérablement d'un point de vue institutionnel. Non, pas du tout. Ça a commencé même avec Chirac, etc., où le petit fonctionnaire devient véritablement, qu'il y a même la descente sociale que celui qui était fonctionnaire avait avant un statut de classe moyenne et que vous avez une prolétarisation du petit fonctionnariat. Cette prolétarisation du petit fonctionnariat, ça peut conduire certains, une minorité de fonctionnaires qui sont dans les greffes des tribunaux, dans les services pénitentiaires, dans la police, accepter la corruption. Et ça, je vous le dis, c'est extrêmement dangereux et c'est lié à la prolétarisation
et
du petit fonctionnariat.
Non, mais
ça n'empêche absolument pas, encore une fois, les services de police, ils connaissent ce que tu dis là. On sait qu'il y a de la corruption partout. Mais en attendant, les services de police, je parle stup, l'OFAS et autres, je te dis très sincèrement, font un travail considérable sur ce sujet-là.
Justement, est-ce que Mohamed Amra, on a mal évalué son profil au fil des années, justement.
C'est clair.
On en parle avec vous au 32-16, puisqu'effectivement, il était petit délinquant, on le rappelait, déscolarisé à 15 ans.
Mais normalement, un profil comme ça, par exemple, en ce moment, j'aurais aimé que des journalistes puissent, mais ils ne pourront pas parce que le rectorat ne voudra jamais parler, mais que le rectorat de Rouen montre le livret scolaire de cet élève, montre tout ce qui a été fait ou qui n'a pas été fait, tout ce qui aura été peut-être toléré à cet élève alors que ça n'aurait pas dû être toléré. Moi, je vais vous dire, je suis sûre que si on retrouve le collège où il était ou l'école où il était et qu'on fait parler en off les profs, ils vont bien se souvenir de lui, à mon avis, parce que ce genre d'énergumène, tu t'en rappelles. Mais si tu demandes au rectorat, non, il était, tout allait très bien, voilà, parce que le pas de vague.
Allez, à tout de suite au 32-16.
RMC, jusqu'à midi,
les grandes gueules.
Tous les matins, dès 5h, RMC vous réveille en douceur ou accompagne la fin de votre nuit.
C'est Charles Matin.
De l'économie, du sport, du rire et bien sûr, toute l'actualité.
À vos réveils, RMC, Charles Matin, du lundi au vendredi, de 5h à 6h30.
Tous les jours dès 6h, Charles Matin est aussi à la télé sur RMC Story, canal 23 de la TNT.
Ce week-end, à l'Hippodrome d'Auteuil, c'est le Grand Steeplechase de Paris avec RMC. Assistez à la plus spectaculaire des courses d'obstacles de l'année. Prenez vite vos places sur francegallo-live.com. Le Grand Steeplechase de Paris, ce week-end avec RMC. À chaque obstacle, c'est votre cœur qui bondira. RMC.fr et appli RMC.
RMC en direct, partout, tout le temps. Trop pressé aujourd'hui ?
sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, on discute, on débat. Alors c'est vrai qu'on est sur le profil de Mohamed Amra. Avant de continuer notre discussion, attention, 14h40 chez Estelle tout à l'heure, la roue va tourner, donc la possibilité de gagner 20 000 euros. C'est maintenant que vous pouvez vous inscrire, vous avez 5 minutes pour m'envoyer RMC, pour m'envoyer roue par SMS au 73216, roue par SMS au 73216. Je rappelle qu'hier, on a gagné 10 000 euros avec les GG avec les grandes gueules. C'est la possibilité de gagner de 100 à 20 000 euros tout à l'heure chez Estelle Denis dans Estelle Midi à 14h40. Allez-y, tentez votre chance. Vous envoyez roue par SMS au 73216. Revenons maintenant à notre discussion sur Mohamed Amra avec Hervé. Hervé qui a travaillé au centre pénitentiaire de Aix. Bonjour Hervé.
Bonjour.
En tant que chauffeur, hein, pour les extractions, c'est ça. Hein.
Oui, en tant que chauffeur, pour un prestataire de...
Alors, c'est vrai qu'on est, on est étonné de la violence du truc par rapport au profil de Mohamed Amra. Qu'est-ce que vous en dites, vous?
Ben, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que des profils comme ça, il y en a à l'appel dans tous les centres de détention.
Ah voilà. Oui.
Et on est, les gens sont finalement au courant de très peu de comment ça se passe.
Oui.
La violence qu'il y a et du peu de moyens qu'ont les agents pénitentiaires.
Mmh.
Voilà.
C'est extrêmement rare. Tout à l'heure, je disais que j'ai vu que ça n'était pas arrivé depuis 1992, ce genre de truc. Ou alors, on nous cache la réalité.
Ah ben, on nous cache pas mal de choses. On nous passe pas mal de choses. Des interventions, il y en a pratiquement tous les jours. Des risques, des très gros risques d'évasion aussi. La nuit aussi, puisque moi, je faisais les astreintes. Il y a les astreintes chauffeurs, parce que tous les jours, les détenus, on les amène à l'hôpital et ils sortent à l'hôpital pour tout. On les fait sortir pour tout et pour rien, pour un petit bobo, pour un petit trage de dents. Quelqu'un qui démonte un rasoir, qui avale une lame de rasoir, on le fait sortir alors qu'il n'y a aucun risque parce qu'il suffit qu'il aille aux toilettes le lendemain et puis voilà. Non, mais des tas de choses, c'est lamentable. On sort des gens pour les amener se masturber à l'hôpital. J'en ai fait.
Mais pourquoi?
Et bien sûr, des extractions médicales, on les sort pour tout et pour rien. Pour les envoyer passer un scanner à l'hôpital.
Non, mais vous dites,
ils passent devant tout le monde. Oui. Il y a deux sites sur Marseille où on les envoie à la Conception et une autre clinique pour qu'ils aillent se masturber parce qu'on ne sait jamais s'ils ont un risque de ne pas se reproduire. Mais bien sûr, je l'ai fait.
Hervé, qu'il y a entre, enfin, vous le savez de toute manière mieux que moi, qu'il y a entre 200 et 400 extractions par jour. Alors vous participiez au Prège, c'est ça, hein, vous étiez dans...
Non, pas au Prège. On a fait des sorties parce que c'est de l'extraction judiciaire. Les Prèges, c'est de l'extraction judiciaire. Moi, j'ai fait extraction médicale, transfert de détenus dans tout le sud de la France, de Toulouse, de Draguignan, jusqu'à Nice, prison de Nice, Grasse, Corba, Lyon-Corba, Ambérieux, Port-en-Bresse.
Donc vous apparteniez aux ENT, les fameuses équipes nationales de transfert.
Je travaillais principalement avec les ENT.
Oui, d'accord.
Okay. Et ENSP également.
Okay.
Voilà, qui se charge des extractions judiciaires médicales, transfert de détenus et extradition.
Alors, expliquez-moi pourquoi, et je pense que ça va être le cas maintenant, compte tenu de ce qui s'est passé, ce garçon n'était pas catégorié des PS 3 ou 4, pourquoi on n'utilise pas plus les ERIS, qui sont des unités, je les connais pour les avoir côtoyées.
Je les côtoyais, parce que j'ai fait des transferts avec
eux. Eux sont surarmés et entraînés pour ça.
Pour l'affaire Pastor, notamment, que j'ai fait un transfert.
Donc, eux sont quand même beaucoup plus équipés. Est-ce que vous pensez qu'ils vont être
La première question, c'est les moyens en personnel. Il n'y a pas assez de personnel. On ne met pas assez de personnel.
Non mais les iris, je reste sur le côté extraction. Les iris sont quand même en nombre, c'est un gros service.
Bah, il y a un pôle, qui sont à Aix, qui étaient avant sur les Baumettes, qui sont actuellement sur Aix. Mais ça ne suffit pas.
Mais ce que je comprends pas, c'est que c'est quand même ça manque de bon sens. Excuse-moi, Bruno, mais a priori, quand même, l'endroit le plus sûr, ça reste la prison. Et là, on prend chaque fois des risques de sortir pour n'importe quel motif. Ces gens.
Pourquoi pendant deux ans, pendant l'histoire du Covid, on a fait un maximum de visio.
De visio,
Mais les juges, parce que les détenus, il faut dire les choses, parce que les détenus sont les avocats, leurs avocats leur disent tu ne signes pas pour faire la visio, on est obligé de les extraire.
Ah, c'est fou, ça, ouais.
Ah, oui.
On marche sur la tête.
Mais même les juges, les juges veulent rencontrer les gars.
Mais ils sont tellement bien conseillés par leurs avocats.
Et oui.
Que tout est fait pour qu'ils sortent pour tout et pour rien.
La visio, ça semble être quand même plutôt.
Pourquoi on mettait tant de moyens pendant le Covid? Puisque tout le monde, il n'y avait que les urgences qu'on sortait.
Mais Hervé, puisque vous connaissez bien les extractions, vous connaissez bien le milieu carcéral, pénitentiaire, vos collègues qui malheureusement ont été.
Je vais vous dire une chose. Si on n'a pas de moyens. Vous savez ce qu'on fait? On abaisse de la dangerosité ou du transfert numéro 4 ou 3, on l'abaisse à 2. Ça permet de faire sortir des agents en ELSP ou moindre.
On les met en danger.
Alors,
mais ça, c'est dans toute la fonction publique. On baisse la qualité du service.
Ça pas en même temps.
Partie 1, c'est 2 agents avec un chauffeur ou alors 3 agents qui conduisent. 2, c'est on rajoute un agent. 3, c'est une escorte police avec une escorte police. Et 4, c'est le transfert avec les iris.
Et là, en l'occurrence, c'est pas tellement le nombre de personnes que le véhicule, parce que
non. Moi, je dis que on a dû abaisser d'une catégorie. Ça permettait de pas faire rentrer les iris.
Oui, voilà, c'est
parce
ça. Parce que
justement, ils sont surchargés. Les presses sont surchargées.
Mais dites-moi, comment, d'accord, je vous suis là, mais alors, du coup, les gens qui sont intervenus, les gangsters qui sont intervenus, le commando, il est au courant de tout
ils
ça.
Sont
comment il est renseigné
la notification, on leur fait signer, tu vas être transféré judiciairement, par exemple, la semaine prochaine. Comment on leur octroie tous les téléphones et tout le reste
c'est pas de la corruption. Vous pensez que c'est pas de la corruption de fonctionnaires?
Mais pourquoi ça serait de la corruption de fonctionnaires?
Je vous pose la question, puisqu'on ça a été évoqué de façon très claire qu'il aurait pu y avoir une corruption.
Vous vous trompez là, monsieur. La chose, c'est que comme ils ont tous les téléphones en détention, vous faites notifier un agent comme quoi il va être extrait judiciairement la semaine d'après. Non, mais laissez-moi terminer. Comme il va être extrait la semaine d'après, on lui dit, il avertit soit son co-détenu, soit son voisin de cellule. Le jour où je vais être extrait, tu appelles ou tu envoies un message. Et justement, dans la foulée, le jour où il est extrait, il a juste à taper à la porte d'à côté ou faire un signe. Et puis voilà,
il connaît l'itinéraire.
Mais bien sûr,
j'imagine, et pour l'instant on n'en sait pas plus, peut-être que certains journalistes judiciaires le diront, mais on ne sait pas justement quand il a été prévenu de son extraction. Parce que moi j'ai entendu que certains disent qu'on peut prévenir le détenu le matin même pour l'après-midi.
Oui, mais
d'autres disent non, on peut le prévenir plusieurs jours avant. Donc, son avocat devrait aussi, j'imagine, collaborer pour dire quand, parce que c'est important de savoir quand il a été informé de son extraction.
Mais on ne peut pas le savoir.
Pour organiser le commando.
Hervé,
un point.
Barbara a raison, un commando comme ça, avec les armes et tout ça, il faut les organiser.
C'est pas organisé du matin pour l'après-midi.
C'est obligatoire que ce soit.
C'est pas organisé, c'est organisé à l'avance. C'est comme les extractions judiciaires, elles ne sont pas faites au dernier moment.
Je sais pas, il y a des gens. Moi, j'ai entendu des experts dire que certains détenus sont extraits le matin.
Sur tous les plateaux de télé, il n'y a que des experts. Sur tous les plateaux de télé, il n'y a que des experts.
Il n'était pas classifié.
Aujourd'hui, j'en vois qu'un d'expert, c'est Bruno Pomard.
C'est gentil, merci Hervé. Non, mais Hervé, vous avez raison. Le problème, c'est qu'il n'était pas classifié DPS 3 ou 4.
Ouais, donc oui, mais du jour au lendemain, parce qu'il n'y a pas les effectifs, on abaisse le taux.
En l'occurrence, l'expert dont je parle, j'ai entendu un magistrat et un avocat dire qu'il arrivait que les extractions se fassent du matin pour le après-midi.
Là, c'était pas le cas.
Ah, voilà. On a même entendu qu'il voulait aller au trou, il voulait aller à l'isolement, c'est ce que tu disais.
Non, je dis, c'est une hypothèse.
Non, pardon, il faut rappeler ce qui s'est passé, parce qu'on passe pas dans tous les sens. Là, il revenait du tribunal. Donc, le tribunal, c'est pas du matin au soir. C'est organisé, c'est dans le cadre d'une procédure, d'un procès, etc. Donc, effectivement, la date était connu, qui a transmis la date, comment ils connaissaient le parcours, mais c'est un guet-apens qui a été organisé.
Merci à Hervé d'avoir témoigné, merci.
Non, mais c'est le top départ, et puis voilà, c'est tellement bien organisé.
Merci Hervé de votre témoignage, merci. Merci
Hervé. Et il faut dire aussi que ils n'ont pas, la plupart, les 90% n'ont pas de formation de conduite.
Ah, conduite défensive, offensive, comme on dit, oui.
Merci. C'est embêtant. Hervé, ce sont des pistes de réflexion aussi pour le ministère.
Prendre des chauffeurs RATP.
Mais il va y avoir une sacrée enquête, à mon avis, parce que là, les pauvres types, ils sont morts.
On se retrouve demain entre 9h et midi avec les GG, avec les grandes gueules. Vous avez les podcasts à votre disposition sur l'appli rmc.fr. Et dans les podcasts, tiens, du jour, les petits indiscrets, vous aurez notamment le témoignage de Bruno Pomard qui parle de toutes ces armes qui sont utilisées, notamment aujourd'hui par ces commandos. Ça, c'est sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr où vous saurez aussi comment parler. Marin Lefebvre a sauvé la vie
d'une petite mésange ce matin.
D'une mésange ce matin.
Ça change notre
la réanimation cardiaque.
RMC, les grandes gueules.
Le débat, la discussion, c'est tous les jours sur RMC dans les GG, dans les grandes gueules. Tout à l'heure de 9h à midi, on ne déroge pas à la tradition avec un trio composé du consultant Antoine Diers, le restaurateur Stéphane Manigold et la cadre de la fonction publique Zora Bitant.
RMC, les grandes gueules, tous les jours, 9h midi.
Tous les matins, réveillez-vous avec RMC.
À 4h30, votre premier journal. 5h, 6h30, Charles Matin.
6h30, 9h, Apolline Matin et le face-à-face à 8h30 avec un invité qui fait l'actualité. RMC, le matin.
Le réflexe info.
RMC Escrime. Du 17 au 19 mai, c'est le Challenge Monal. La Coupe du Monde d'épée hommes accueille les stars mondiales de l'escrime à Saint-Maur-des-Fossés. Encouragez le champion olympique Romain Canon et ses partenaires de l'équipe de France pour la dernière épreuve sélective avant les Jeux Olympiques. Info et résa sur ffescrime.fr. Le Challenge Monal. Du 17 au 19 mai avec RMC. Alexa, mets RMC.
D'accord.
RMC est disponible sur toutes vos enceintes connectées. RMC, partout. Tout le temps.
Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
C'était ce matin sur RMC.
Arnaud Demanche, mon invité ce matin dans le face-à-face. À 8h30, c'est Alain Boer, le professeur de criminologie au Centre National des Arts et Métiers, spécialiste des questions de sécurité.
Et oui, car on est encore sur une actualité délirante de fun ce matin. Oh là là, des bars de LOL en cascade.
Et ouais, Pauline, ce matin, c'est le plus grand cabaret de l'actu. Il y a du rire et de la bonne humeur. Il y a des émeutes en Nouvelle-Calédonie, des attaques de fourgons pénitentiaires, la guerre au Proche-Orient, le Premier ministre de Slovaquie qui prend une balle, et Alain Boer qui va jongler avec tout ça pendant 25 minutes, ça va être extraordinaire. Incroyable.
C'est
ça va être exactement ça.
Non mais,
hier, l'actu, c'était un multiplex de Ligue 1.
Oh là là, un tir à côté de Paris dans un bar, on y va tout de suite. Oh là, un tir à Nouméa. Oh là là, un tir en Slovaquie.
Que des emmerdes pendant toute la journée. Donc l'exécutif est sur les braises, notamment à cause de la situation en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement a appelé les différentes parties au dialogue. Et là, on sait que le dialogue, la concertation, tenir compte de l'opinion contraire, c'est la spécialité d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Moi, je suis calédonien, j'entends que Macron veut dialoguer, je stocke du sucre dans ma baignoire. Hein. Ça veut dire que c'est pas résolu tout de suite. D'un autre côté, ils n'ont pas la bonne méthode en Nouvelle-Calédonie. Quand tu veux obtenir quelque chose du gouvernement, tu brûles pas des écoles et des gymnases. On sait que ça marche pas. Ce qui fonctionne avec Macron, on sait ce que c'est. Hein, vous savez non, je vous donne le truc, t'achètes un tracteur. Et tu répands du lisier de porc à la mairie, du crottin de cheval chez le sous-préfet, de la bouse de vache à la préfecture, tu bloques un marché. Et là, Gabriel Attal se met en mode Karine Le Marchand. Il vient te voir directement dans ta grange pour te faire un massage de la voûte plantaire en te demandant ce qui te ferait plaisir. Alors, Roger, c'est quoi tes soucis? Dis-moi tout. Et là, ça fonctionne.
RMC, Apolline Matin.
c'est tous les jours de manche.
Et c'est l'heure de rigoler. Oh, bah oui. De manche, c'est rentré dans ce
allez. La bonne barre de LOL du jour. J'espère que vous allez bien. Et si vous n'allez pas bien, dites-vous qu'au moins vous allez mieux que Gabriel Attal. Voilà. En janvier, il avait 34 ans et pas un cheveu blanc. Je l'ai vu hier parler de la Nouvelle-Calédonie. Waouh, 52 ans le pauvre. Tu sentais qu'il n'avait pas dormi depuis 3 jours. Dans sa tête, ça faisait... Assommé, un zombie. Faut dire que la situation est explosive à Nouméa. Le dossier était déjà hautement inflammable à la base. J'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi l'exécutif s'est rajouté ce bordel-là à gérer, alors qu'il en a déjà assez, hein, entre les agriculteurs, les soignants, les profs, les syndicats, les gens, tout le monde, nous tous, plus les JO. Macron, il a dû réunir ses conseillers en disant « Bon, les gars, soyez francs. Est-ce qu'il y a encore des gens qui me détestent pas en France ?» Les Calédoniens, je crois, ils sont loin. N'en dites pas plus. Et hop, il s'est lancé dans le défi. Et depuis, nous sommes en 2024 après Jésus-Christ. Toute la Gaule déteste Emmanuel Macron. Toute, non. Dans le Pacifique, un petit village d'irréductibles calédoniens essayait de s'en foutre jusqu'à ce que Jupiter décide de leur tomber dessus. Emmanuel Macron, il va d'ailleurs réunir un nouveau conseil de défense aujourd'hui sur le sujet. Il a dû reporter sa visite à Flamanville. Il devait aller à Flamanville visiter le nouveau réacteur nucléaire EPR parce que ça avance là-bas. Le chargement de combustible a eu lieu cette semaine. C'est pour ça qu'on a eu les belles aurores boréales. C'est très joli, mais c'est radioactif. Hein. Le chantier de l'EPR a commencé en 2007. Il devait durer 5 ans et coûter 3,3 milliards. Finalement, ça aura pris 17 ans et 19 milliards. Et voilà. Ouais. Brigitte doit être déçue de ne pas visiter l'EPR. Hein. Il a 17 ans, le chantier, c'est l'âge qui l'intéresse. C'est bien pour elle. Il venait d'avoir 17 ans. Ça fait quand même un dépassement de 12 ans pour le chantier. Hein. Faut pas leur confier ta cuisine à ces gars-là. Ils viennent te voir. Bon, monsieur Le Chypre, ça y est, on a démarré la cuisine. Alors, vous inquiétez pas, hein, le plombier, il m'a dit d'ici 12-15 ans, il est dispo, le gars. Sinon, l'électricien, il dit le four à mini-pizza connecté, plus le micro-ondes, plus la plancha, plus la crêpe partie, plus le four, plus le mixeur, plus le thermomix, plus le Ninja Creamy Deluxe pour faire des glaces. Plus l'appareil à raclette, tout en même temps, les plombs, ils tiendront pas. Hein. Alors, le budget, on avait dit 3 000, on est à 300 000, hein, ça dépasse un peu. Et puis, en attendant, je vous ai mis des bougies chauffe-plat. C'est peut-être ça, le génie français. On sera prêt pour les JO de 2024, mais dans 12 ans. Cocorico.
À Paris, Arnaud, un lécheur en série passe donc dans les boutiques et il provoque la crainte des commerçants et une saturation des appels à la police.
Oui, alors je vous ai vu tiquer sur le lancement parce que vous ne savez pas, mais il y a un gars qui rentre dans les boutiques à Paris et il lèche par terre.
Donc il y avait le frotteur et maintenant il y a
le lécheur. Il lèche le sol. Il a l'air normal et il lèche par terre les sols des boutiques. Donc il doit être immunisé contre toutes les maladies possibles. S'il se baigne cet été dans la Seine, lui, il sera pas malade. Mais ne soyez pas juge, il faut être inclusif. Il est peut-être juste LGBT+, c'est-à-dire lino, gravier, béton, tomette, plus carrelage et moquette. C'est son truc à lui. C'est une pub pour Monsieur Propre. Et il se caresse les tétons devant, c'est très érotique.
Alors, il lèche la télé, du coup.
Par tous les objets. J'imagine que la police a dû être appelée au moins une fois quand même. Ils ont dû arriver en disant « Police ! Posez cette langue à terre ! » Enfin non ! Posez cette langue sur votre nez et reculez de 3 pas ! Passez-lui les menottes. Alors mon bonhomme, tes papiers ? Nom ? Prénom ? Je m'appelle Stanislas Guérini. Oh, monsieur Guérini, on vous a déjà dit, c'est que les chaussures du président, ça. C'est que ça qu'on lèche. Ben oui, mais il est en déplacement. On va devoir vous déférer au parquet, je suis désolé. Je pourrais le lécher, le parquet ?
Oh non ! Non ! Ce jeudi sort le Petit Robert, Arnaud. Oui. Le dictionnaire a dévoilé les nouveaux mots qui vont faire leur entrée cette année.
Alors, il y a des noms propres, il y a des noms communs. Et est-ce que vous saurez deviner qui ou quoi est rentré dans le dictionnaire ? On va faire un jeu qui s'appelle C'est oui ou bien c'est non. Jingle !
C'est oui ou bien c'est non.
À gagner une après-midi de lèche-vitrine avec Stanislas Guérini, c'est un beau cadeau.
Alors, c'est je vais
un beau cadeau.
C'est un alors, très beau cadeau.
Est-ce rentré dans le
gagner.
Est-ce rentré dans le petit Robert? Oui ou non? Je vous donne le mot et sa définition. Mmh. Top. Rachida Dati, restauratrice spécialisée en kebab de chien.
C'est non.
Sapiosexuel.
C'est vrai.
Attiré
par
les gens intelligents.
C'est oui.
Et oui.
C'est quoi? Sapiosexuel, ça veut dire être attiré sexuellement par l'intelligence de quelqu'un.
Ah d'accord.
C'est un mot utilisé.
Le corps et l'esprit.
Voilà. En fait, c'est un mot utilisé par les hommes qui te font croire qu'ils n'ont pas maté son cul.
C'est le genre de truc qu'on met sans le savoir.
Voilà, exactement.
Oui.
Ah, Pauline.
Teubé sexuel, qui est attiré par les gens complètement teubés.
C'est non.
TikToker, comme la méningite s'attaque au cerveau des plus jeunes.
Effectivement, dans le dictionnaire.
Urbex, qui visite des endroits délabrés ou en ruine, comme le 19e arrondissement, c'est vrai. Castexisé, simplifié à la française.
Ah non, mais ça,
ce serait génial.
Il faut.
Surtourisme, contraire d'un dimanche après-midi au Havre en novembre.
C'est vrai.
Cécy Foot, épreuve paralympique de foot pratiquée par des déficients visuels, comme par exemple le PSG face à Dortmund. Voilà, il l'a senti venir. Il l'a vu venir de loin parce qu'il n'est pas déficient visuel, notre charbonnier. Vocal. Au lieu d'envoyer un long SMS que les gens n'envoient pas.
Des vocaux.
C'est relou un vocal, non? J'envoie pas de vocal.
Non, je tape pas.
Avec un doigt. On y va.
Écoféministe, quand Manu Le Chypre met une jupe avant sa chronique.
Oui, c'est tout à fait
bonjour,
ça.
Bonjour, bienvenue dans ma chronique écoféministe. Voilà.
Et bah oui, c'est rentré. Et d'ailleurs, c'est un beau truc qu'on aimerait voir sur BFM Business. Pensez à nous, Manu, soyez non-binaire.
Aucun problème.
Mettez une jupe.
Et alors, aucun problème.
Super, détente.
Demain, si vous voulez.
Tranquille.
Avec un kit magnifique, brillant. J'en rêve.
Demain.
Arnaud Demanche est chaque matin à 7h20 et 8h20
dans Apolline Matin sur RMC.
Tout de suite, réécoutez C'est tous les jours de manche en podcast
sur toutes vos plateformes, sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
RMC, Rotten sans flamme.
Salut, c'est Jérôme Rotten. Cette semaine, dans Rotten sans flamme, on fait le grand jugement de la saison du Paris Saint-Germain. Et croyez-moi, ils vont tous y passer. Ne ratez surtout pas ça, ce sera tous les soirs à 18h30 sur RMC. Et ce soir, on fait le procès de Gigio Donnarumma.
Ce week-end, à l'Hippodrome d'Auteuil, c'est le Grand Steeplechase de Paris avec RMC. Assistez à la plus spectaculaire des courses d'obstacles de l'année. Prenez vite vos places sur francegallo-live.com. Le Grand Steeplechase de Paris, ce week-end, avec RMC. À chaque obstacle, c'est votre cœur qui bondira.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC. RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
L'actualité du jour, et c'est cette phrase très forte de Gérald Darmanin suite à l'attaque d'un fourneau pénitentiaire qui a fait 2 morts. Le ministre de l'Intérieur a évoqué hier le rôle du narcotrafic et la responsabilité des consommateurs de drogue dans ce drame. Écoutez.
Non mais ce qu'il faut comprendre, que c'est si la drogue, c'est la consommation de la société. Les trafiquants ne vendent qu'un produit que des gens achètent. On ne peut pas à la fois, c'est ce que je veux vous dire en quelques instants, pleurer les veuves et les orphelins sur le péage de l'heure et continuer à fumer son joint. C'est pas possible. Ça s'appelle la schizophrénie et chacun est responsable.
Et c'est pas la première fois, Rémi, que Gérald Darmanin pointe du doigt les consommateurs de drogue.
Ouais, ça fait plusieurs mois maintenant que le ministre de l'Intérieur, entre autres, les tient, ces consommateurs, pour responsables de la situation actuelle. En janvier dernier encore, en déplacement à Marseille, il le répète, les premiers responsables de cette situation, ce sont les consommateurs. S'il n'y a plus de consommateurs, il n'y a plus de vendeurs. C'est celui qui fume son joint et qui prend son rail de coke, parfois dans les beaux quartiers, qui fait naître les règlements de compte. Quelques semaines plus tard, c'est Éric Dupond-Moretti qui enfonce le clou. Il est invité ce matin-là d'RMC et de BFM TV. Le ministre de la Justice n'y va pas par quatre chemins. Celui qui fume son petit pétard le samedi soir, ce pétard-là, voyez-vous, il a le goût du sang séché sur les trottoirs. Des mesures ont déjà été prises. Depuis 2020, une personne surprise en possession de stupéfiants ou en train de fumer un joint, par exemple, dans la rue, encourt une amende forfaitaire, une amende de 200 euros. C'est la fameuse AFD, l'amende forfaitaire délictuelle. Et puis récemment, Gérald Darmanin a défendu l'idée d'étendre les dépistages salivaires sur la voie publique, sur le modèle des contrôles d'alcoolémie. Concrètement, des policiers, des gendarmes pourraient être équipés de kits salivaires avec coton-tige et effectuer des contrôles dans la rue, contrôles de stupéfiants, et donc multiplier les amendes.
Alors, les consommateurs sont-ils responsables du narcotrafic, Fred Hermel?
Je comprends l'idée. Je comprends l'idée, puisque oui, les consommateurs de stupéfiants doivent savoir dans quel marché ils se fournissent. De la même manière que l'on prévient des gens qui achètent des t-shirts à 1 euro de fast fashion, comme on dit dans un très mauvais anglais, qu'il y a peut-être et sûrement des esclaves, ou au minimum des gens exploités derrière tout cela. Donc je comprends qu'on essaie de faire prendre conscience aux gens. Après, je trouve ça un peu gonflé. Rémi disait des mesures. Dans ma tête, j'entendais des mesures. Oui, on est dans la démesure quand le ministre de l'Intérieur dit ça. Les principaux responsables, ce sont déjà ceux qui vendent la drogue.
Oui. Voilà, enfin, s'il n'y avait pas de vendeurs de drogue, il n'y aurait pas de consommateurs.
Oui, mais enfin ce n'est pas le mec qui fume son joint qui a tué ces malheureux.
Tu as raison, tu as raison.
En fait, si on veut faire passer le message, il ne faut pas être dans l'invective comme ça. Parce que là, c'est tellement ridicule, en fait, comme accusation, que c'est tellement too much, pour parler encore dans un mauvais anglais, que ça n'impacte pas. Qu'on explique clairement, sans culpabiliser, en disant, voilà, ayez conscience de ça. De la même manière, j'insiste, que la fast fashion, s'il y a des esclaves derrière. Ça, je trouve ça bien. Mais en fait, c'est aussi une manière de montrer l'impuissance de l'État qui n'arrive pas à endiguer ces trafics. Voilà, c'est tout.
Et est-ce qu'on peut dire, Pierre Rondeau, finalement, que les consommateurs ont presque une même responsabilité que les dealers?
Non, justement, et je rejoins parfaitement Fred à ce niveau-là, c'est un aveu d'échec, ce discours. Dire que finalement, ce serait la faute directement du consommateur, c'est considérer que le gouvernement, l'État, n'a pas réussi à annihiler le trafic, à annihiler l'offre et la production. Sa logique est de dire, s'il y a des consommateurs, il y a forcément des trafiquants. L'inverse est aussi vrai. S'il y a des trafiquants, il y a aussi des consommateurs. Et le trafic existe parce qu'il y a ces producteurs.
Et ces consommateurs.
Mais dire que finalement, ça serait la faute unique.
Il ne dit pas que c'est la faute unique. Il dit d'accord. Qu'il y a une responsabilité.
Il pointe la responsabilité.
Si on met le trait là-dessus, que le gouvernement aille d'abord sur le combat contre les trafiquants, contre le trafic, contre la production, avant de montrer du doigt les consommateurs. Certes, les consommateurs sont fautifs. Je ne remets en rien du tout en cause là-dessus. Effectivement, consommer via, non pas sa propre production, mais via les trafics, effectivement, on soutient le narcotrafic. Mais directement, le gouvernement doit sa tâche, c'est de mettre fin à la production, c'est de mettre fin aux trafiquants. Donc, Gérald Darmanin ou le garde des Sceaux, lorsqu'ils disent que c'est ce petit bourgeois des beaux quartiers qui, avec son rail de coke ou son joint le samedi soir, soutient le trafic, c'est clairement, pour moi, évidemment, un aveu d'échec. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, Rémi l'a soulevé, c'est que les moyens mis en place pour lutter contre cette consommation, c'est des amendes forfaitaires. C'est véritablement...
C'est déjà mieux que rien, avant c'était rien.
Avant c'était un délit. Et donc avant,
mais avant, si t'étais prêt à fumer un joint, il n'y avait rien.
Mais si voilà, vraiment mettre fin à la consommation, qui passe à 1 000 euros, l'amende.
Mais il y a un nombre tel de consommateurs qu'on sait très bien comment ça se passait auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, des policiers surprenaient un jeune, ou pas un jeune d'ailleurs, en train de fumer un joint dans la rue, on lui prenait son joint, et on l'écrasait, on le détruisait, on contrôlait son identité.
Et on prend l'argent.
Et on partait. Parce que qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas emmener tous les consommateurs. Je vous rappelle, on est le premier pays consommateur en termes de cannabis.
Et le plus répressif.
Donc, rien ne se passait. Dans l'idée du gouvernement, je ne dis pas que ça fonctionne. Je dis simplement l'idée du gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, un jeune surpris en train de fumer un joint peut être verbalisé.
D'accord, mais c'est la schizophrénie que je dénonce. Comme Gérald Darmanin dénoncerait une forme de schizophrénie de la part du consommateur. C'est-à-dire que c'est la faute du consommateur, mais la seule sanction, c'est 130 euros, l'amende.
200.
Qu'ils mettent à 1500 euros, si vraiment.
De toute façon, il n'est déjà pas payé à 200, il ne sera pas plus payé à 1500.
Voilà, mais si vraiment leur logique.
Des amendes qu'ils ont payées.
Si c'est de la faute pour eux du consommateur, qu'ils aillent vraiment attaquer le consommateur, qu'ils disent pas c'est ta faute. T'es pris en flagrant délit. Allez, 200 euros, tu peux continuer. Non, mais attendez, c'est quoi ce discours?
Juliette Briasse, est-ce que vous êtes séduite par le discours du ministre de l'Intérieur? Est-ce que il va dans le bon sens, selon vous?
Ah non, je pense pas qu'il aille dans le bon sens. Alors, évidemment que quand un consommateur commande de la drogue, il alimente le trafic. Ça va de soi, c'est la plus grande logique. Le problème, c'est que je ne pense absolument pas qu'on annihilera le trafic de drogue par la responsabilisation du consommateur. Déjà, faut savoir que dans la consommation de drogue, il y a le facteur de l'addiction, qui est très important. On a 5 millions de consommateurs de cannabis en France, 600 000 de cocaïne.
Ils sont pas tous addicts, hein, parce que t'as aussi du cannabis récréatif.
On parle des réguliers et des moins réguliers, mais bon, globalement, 5 millions, 600 000 pour la cocaïne, 400 000 pour les extasies. Donc, on n'a absolument pas les moyens de t'aller traquer le moindre fumeur de shit pour le faire payer. Déjà, il faudrait punir, c'est vrai. Donc, passer d'une amende bien plus conséquente que celle qu'on a aujourd'hui, mais on n'a absolument pas les moyens et les effectifs de police pour aller traquer les consommateurs. Donc la seule chose qu'ils sont en train de faire, là, Darmanin et Monsieur Dupond-Moretti, c'est de se défausser de leur propre responsabilité, parce que le responsable, c'est l'État. C'est même pas la peine de parler des trafiquants, c'est même pas la peine de parler des consommateurs. Le responsable, c'est l'État qui a laissé ce trafic de drogue exploser sur notre sol au point qu'on estime la fourchette haute de chiffre d'affaires en France sur le trafic de drogue, c'est 6 milliards. Donc en 2022-2023, on a une moyenne de 150 tonnes de drogue qui sont saisies par la police, ça a même pas commencé à les effleurer. Donc la France se dirige tout droit vers le narco-État. Et sans vraie volonté politique d'enrayer ce trafic. Et ce sera sanglant. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de volonté. Parce que ça sera sanglant. Ils sont tous armés jusqu'aux dents.
Après, c'est ce que c'est ce dit d'ailleurs le rapport politique, le rapport
on se dirige vers le narco-État comme le Mexique. Et ce qu'on a vu mardi, avec cette attaque au fusil lourd, c'est exactement ce qu'on voit au Mexique. On n'avait pas vu ça en France depuis 32 ans, mais même pas à cette ampleur.
Et hasard du calendrier, effectivement, il y a un rapport sénatorial qui est paru cette semaine sur le narcotrafic en France.
Qui est effrayant.
Et qui est effrayant parce que qui pointe du doigt la responsabilité de l'État, justement, qui dit qu'effectivement, la France est en train de devenir, alors c'est pas les termes qui sont exactement employés, mais comme un narco-État, en tout cas, le rapport s'inquiète notamment d'une corruption de plus en plus prégnante des responsables, de certains responsables élus, de certains policiers, de certains magistrats, même.
Toutes les institutions. Parce qu'ils brassent des millions.
Voilà, exactement.
Toutes les institutions.
Et il y a un risque.
Et en fait, ils disent que tout le monde a un prix. Et effectivement, alors si on essaie de t'acheter 100 balles, tu vas dire non. Si on essaie de t'acheter 500 000,
aujourd'hui, tout le monde a un prix. C'est vrai que la police, quand on voit aujourd'hui comment on les traite, comment le statut qu'ils ont, le manque de respect au quotidien, les insultes et aussi, évidemment, le manque de moyens. Mais évidemment, ils sont bien plus achetables qu'avant.
Enfin, c'est pas ça qui inciterait à ce qu'un flic soit corruptible.
Si,
c'est pas parce qu'on l'insulte qu'il va être corrompu.
Non.
Mais l'argent qu'on met à côté, la
corruption. Je rejoins sous l'idée que 6 milliards de chiffre d'affaires annuel, effectivement, forcément, c'est facile de corrompre et mettre beaucoup d'argent.
Non, mais c'est pas que pour ça.
Mais le lien entre l'insulte contre les policiers va les amener à être corruptibles.
Non, mais entre autres, c'est aussi leur moyen de vie, leur niveau de vie. Et la corruption, c'est le premier signe, le premier symptôme de la tiers-mondisation.
D'un pays.
Effectivement, il y a des millions et des millions. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit sur le détenu qui est en fuite. Il a de quoi organiser sa cavale, parce qu'effectivement, il est.
Il y a de moins en moins de fierté à être flic aujourd'hui, parce qu'ils sont maltraités, ils sont mal payés, ils vivent un enfer, et donc ils sont bien plus susceptibles d'être tentés par la corruption.
Il y a beaucoup de gens qui aimeraient beaucoup avoir leur rémunération.
Oui, c'est aussi un métier dangereux. Voilà, c'est un métier dangereux. On l'a encore vu il y a deux jours.
Oui, d'accord, mais c'est
la fête d'être.
C'est surtout que ce marché brasse des milliards, vous l'avez rappelé,
Manuel,
et que c'est facile de corrompre, que ce soit ou non policier.
Rémi, on a beaucoup de messages sur l'appli RMC, c'est un sujet qui fait réagir.
Oui, j'ai ce message de Thibault qui nous dit « Mais bien sûr que le consommateur est aussi responsable de la drogue. Derrière la drogue, il y a de l'esclavage, du travail des enfants, ça finance le terrorisme. Il serait temps que les consommateurs ouvrent les yeux. »
Alors justement, on a un consommateur en ligne, c'est David qui nous appelle de Seine-et-Marne. David qui est commercial et qui est consommateur depuis une vingtaine d'années. Bonjour David.
Oui, bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est intéressant David que vous réagissiez au propos du ministre de Gérald Darmanin, parce que vous êtes quelque part directement visé par ces propos. Voilà, on ne peut pas pleurer les veuves quand on fume son joint sur son canapé. Est-ce que vous estimez qu'il a raison Gérald Darmanin?
Non, j'estime qu'il a complètement tort, qu'il se défausse de ses responsabilités. Et je me permettrais, pour commencer, de lire un extrait de texte de Loïc Vacant, un sociologue français qui travaille aux États-Unis depuis un certain temps et qui a publié ça en 2004, je crois. Il disait « Le raisonnement de gros bon sens selon lequel l'inflation carcérale se traduirait nécessairement par une réduction mécanique de la criminalité du fait de son effet de neutralisation des condamnés mis hors d'état de nuire se révèle spécieux à l'analyse. Car dès lors qu'il s'applique à la délinquance d'opportunité, l'enfermement à tout bien revient à recruter de nouveaux délinquants par effet de substitution.
D'accord.
Ainsi, un petit trafiquant de drogue placé en détention est immédiatement remplacé par un autre. Pour autant qu'il subsiste une demande solvable pour sa marchandise et que les espérances de profit économique en valent la chandelle.
Okay,
et
David.
Si ce successeur est un
snob. Oui, David, votre avis à vous. Non, mais David,
et sécuriser son commerce.
D'accord,
il
David.
Sera plus enclin à la violence pour ses...
David, voilà. David, je vais vous couper en fait. Non mais d'accord, mais David, là, moi ce que je veux c'est votre point de vue à vous.
Bien moi.
c'est que déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui font pousser leurs propres herbes et qui, donc, dans ce cas-là, ne sont aucunement en lien avec ces réponses.
D'accord.
Ils sont
absolument
pas concernés par ça. De l'autre côté, tout à l'heure, prenez l'exemple des t-shirts. Quand on achète des t-shirts, on vous explique qu'ils sont produits de telle ou telle manière. La différence, c'est que des t-shirts, on peut en acheter légalement ailleurs. On a une proposition. Aujourd'hui, la société, le gouvernement ne propose pas de solution légale pour s'acheter du cannabis.
C'est vrai.
Il y a des gens qui, depuis plus de 30 ans, demandent qu'on légalise le cannabis et préviennent que ce genre de problème va arriver, que que la prohibition ne fait que nourrir le trafic et la violence. Et
Vous dites en fait la légalisation, David,
oui.
Faut que vous m'écoutiez, David.
Oui,
vous dites en fait la légalisation, en fait pour vous c'est la solution.
Non, ce n'est pas la solution, mais c'est une solution. On ne pourra rien faire sans la légalisation. Maintenant, ce que je propose à M. Darmanin, parce qu'il
prend
les consommateurs à témoin comme ça devant toute la France, moi je peux lui trouver tout un tas de consommateurs qui sont des gens parfaitement responsables et qui payent beaucoup plus d'impôts que tous les gens qui sont autour de
votre
table.
Ce n'est pas le problème, David.
Qui
paye les impôts, vous avez le droit dans le trafic. Hein.
Non, mais
c'est pas le problème. Non, mais David, en fait, c'est pas le problème. Voilà, vous, si vous produisez votre herbe, moi, je veux bien entendre que vous ne soyez pas responsable des trafics. En revanche, la majorité des gens, ils se fournissent effectivement auprès de trafiquants, voilà, même si ils restent chez eux dans le 16e arrondissement et qu'on leur fournit via Ubersheet, mais n'empêche qu'ils se fournissent comme ça et que quelque part, on ne peut pas exonérer totalement le consommateur de sa responsabilité quand il achète du shit à des dealers qui ensuite effectivement nourrissent des gros trafiquants. Merci beaucoup en tout cas David d'avoir été avec nous, et notre invité sur ce débat c'est Yann Bastière, il est délégué national investigation du syndicat de police Unité. Bonjour Yann Bastière.
Bonjour Estelle.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin ? Est-ce que les consommateurs sont responsables ?
En grande partie, je suis d'accord avec lui.
D'accord.
C'est de l'offre et de la demande. J'ai entendu l'auditeur précédent, heureusement que je n'étais pas à l'antenne parce que j'aurais hurlé par moment. Oui, bien entendu, pas de demande, pas d'offre. Alors c'est très binaire comme réponse, vous allez trouver, et j'ai entendu tout et un peu n'importe quoi aussi sur les interventions précédentes. Juste pour information, il faut aller dans le code de procédure pénale, je vous dis une bêtise, dans le code de la sécurité publique, l'usage de produits stupéfiants est toujours un délit, puni d'un an de prison et 3750 euros d'amende. Vous aviez raison Estelle tout à l'heure lorsque vous disiez que l'amende forfaitaire délictuelle, c'est un palliatif, mais il valait mieux, vous allez voir, je vais parler à tous vos auditeurs, il valait mieux fumer un joint, comme je vous l'ai rappelé, et c'est toujours le cas, c'était un délit, que de brûler un feu rouge. Parce que là, vous preniez une amende, des points, et forte, que l'usage, vous n'étiez pas puni. C'est un palliatif qu'on a trouvé avec l'amende forfaitaire délictuelle, mais il fallait bien trouver une petite réponse.
Mais elle n'est jamais réglée.
Allez, j'ai pas dit qu'elle était réglée. On tape au portefeuille, on va peut-être raisonner certains. Ce que je voulais faire entendre sur le fait que je rejoins ce que dit M. Dupond-Moretti et M. Darmanin, ce sont peut-être des propos excessifs et un peu disruptifs, je l'entends. Moi, ce que j'aimerais vous faire entendre dans mes propos, je suis policier formateur anti-drogue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est bien de taper sur les usagers, mais depuis quand la puissance publique n'a pas mis en place une campagne sur les dangers de l'usage de cannabis.
Vous avez raison,
depuis
bien sûr, bien
mais
sûr.
De toute façon,
dans les collèges, dans les lycées aussi.
Je peux vous dire que cela fait des années, des années et des années. D'ailleurs, devant la commission au Sénat, Gérald Darmanin l'a dit. Cela fait plus de 5 ans qu'une campagne publique. Aujourd'hui, nous avons les moyens, nous avons des réseaux sociaux pour faire du trash, même s'il faut. Il faut montrer. Parce que ce dont on ne parle pas, c'est l'impact sanitaire de l'usage de ces produits.
Ouais.
Notre santé publique, nous sommes tous en train de cotiser plus ou moins pour la santé publique. Personne ne parle. Dans tous les rapports qu'on peut voir, j'ai participé à un rapport, le CESE a travaillé, voici une grosse année, j'ai été entendu dans ce cadre-là, mais on n'évoque pas la santé publique et les problèmes de schizophrénie, les problèmes de cancer sur les voies aériennes supérieures. Vous voyez, je parle même pas de narcotrafic, là.
Bien sûr.
Donc, il y a tout un tas de sujets qui ne sont pas abordés à dessein, hein. Ça, c'est un peu dans l'air du temps, hein. Fumer un bédo sur le canapé le soir, ça détend. Mais en effet, s'il n'y a pas cette quantité énorme d'usagers, qui pour vendre ? Donc, ça va un peu loin. Vous voyez, ça va peut-être un peu loin de faire l'usager qui appuie sur la queue de détente et qui tue dans la rue. Mais c'est un lien que je peux faire également.
Mais moi, je comprends, et en tout cas, moi, je suis totalement d'accord avec vous sur l'absence de campagne de prévention. C'est-à-dire que les mômes, même quand ils commencent à fumer, quand ils fument leur premier joint, ils savent absolument pas, je veux dire, sur quoi ça peut déboucher. Alors, bien sûr, il y en aura pour qui ce sera uniquement récréatif ou plus jamais ou tout ça. Mais aujourd'hui, on sait pas les dégâts que ça fait sur le cerveau et tout.
Je suis d'accord, mais venant d'un délégué de police, c'est un peu léger comme réponse. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est très bien de faire de la prévention.
Bah ouais.
Mais là, on parle.
C'est le début.
On est sur la route du narco-état. Je pense qu'on n'en est plus là. Là, peut-être se réveiller.
Mais ceux qui vont arriver derrière. Oh, mais ça t'empêche pas de faire de la prévention.
Ça m'empêche pas. Mais si c'est la seule réponse, là, j'ai rien entendu. J'ai entendu aucune autre solution.
Après, c'était pas la seule réponse.
Je suis d'accord. C'est très bien, mais
l'efficacité. Après, c'est l'une des réponses.
C'est annexe.
C'est pas la seule réponse, mais je suis pas sûr de l'efficacité de la prévention. On est déjà le premier pays consommateur en Europe.
Oui, mais il n'y a pas de prévention.
Oui, mais on a de la prévention pour la sécurité routière, contre la
l'obésité. Et ça marche plutôt bien.
Pour l'obésité.
Et sur le tabac,
ça marche bien.
Mais le tabac, c'est pas ça. Le tabac, c'est le prix.
Attends,
oui, c'est légal.
Mais attends, excuse-moi. Non, mais Pierre, les chiffres aujourd'hui de l'alcool baissent, les chiffres du tabac baissent. Il y a des